Qu'est-ce que l'histoire ? C'est un voyage dans le passé en enfilant la peau des autres pour se mettre à leur place.
La cause des vaches.
Ça, ce ne sont pas des bovins, c'est des chefs-d'œuvre.
Jacques Chirac, qui aimait flatter les limousines, disait qu'elles n'étaient pas des bovins, mais des chefs-d'œuvre. La vache, en effet, est le produit d'un long travail d'observation et de sélection, de spécialisation aussi. On lui avait demandé longtemps la polyvalence, soit une triple aptitude au travail, à la viande, au lait. Mais les races réputées pour leur force de traction ont dû soit disparaître, soit se reconvertir. Et les éleveurs ont été poussés à produire soit des laitières, soit des allaitantes. Selon le processus de la destruction créatrice bien connu en économie, la valorisation apparemment sans fin des races les plus productives, on a rejeté beaucoup d'autres dans l'ombre. En France aujourd'hui, la prime Holstein, issue de la frisonne pinoire, elle-même descendante de la hollandaise, occupe le haut du pavois. Et avec elle, 7 autres races suffisent dorénavant à constituer 96% des effectifs du cheptel. Pour répondre à la demande de masse, une tendance de l'élevage est donc de tirer encore vers leur exploitation plus rationalisée. Des fermes de 300, 500, 1000 vaches et au bout du processus de transformation, des briquettes de lait qui circulent en conteneurs. Et pendant ce temps, en novembre 2015, s'est éteinte la dernière des basougées, tandis qu'était morte auparavant, dans une obscurité plus grande encore, la fémeline de Franche-Comté, la brune de Guingamp et tant d'autres. La lutte des races à petits effectifs pour maintenir leur existence mérite pourtant l'éclairage. Jacques Chirac parlait de chefs-d'œuvre à propos des limousines dans le cheptel bovin. Il est aussi bien des chefs-d'œuvre en péril.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec Philippe Dubois, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun.
Formidable livre chez Delachaux et Niestlé, une maison d'édition à laquelle vous n'êtes pas totalement étranger, qui s'intitule « Toutes les vaches de France ». Alors, il y a eu des peintres comme Rosa Bonheur qui peignaient les vaches au 19e siècle. Nadar a photographié les vaches. Vous êtes un grand photographe de vaches.
Oui, j'aime bien photographier les vaches. Je trouve qu'elles sont, elles sont super belles. Elles ont des yeux... Et puis, elles ont une façon de nous regarder assez paisible, avec un air un peu narquois. Voilà,
mais il n'y a pas seulement des photographies. Il y a une analyse historique de toutes les races, sous-races et espèces de vaches. Et alors, quand vous ne vachez pas... Québécois, ça veut dire ne rien faire, vacher, vous occuper d'oiseaux.
Je m'occupe d'oiseaux, ce qui n'a rien à voir, mais c'est aussi une autre forme de la biodiversité animale.
Et vous aviez fondé une revue, Ornithos.
C'est ça, ouais. Voilà.
Et vous avez fait des études de...
Chirurgie dentaire, vous voyez, tout mène à tout.
Tout à fait cohérent. Alors, c'est dommage que le Festival de Saint-Dié ne vous ait pas invité, il est consacré aux mondes animaux, à partir de jeudi-vendredi. Vous auriez pu parler des Vosgiennes.
Oui, la Vosgienne qui est une petite vache avec une robe tout à fait superbe, mouchetée, et qui existe et qui sans elle ne donnerait pas le plaisir de manger du Munster, puisque c'est la vache du Munster.
Oui, mais la plus belle vache peut-être, dos, je vous cite, dos rectiligne, silhouette élancée, poitrine large et profonde, queue attachée haut. Fesses minces, c'est
la Salers, bien sûr.
Vous dites la Salers, vous ?
Oui, la Salers, la Salers.
Mais vous avez autorité, parce que vous êtes du Cantal.
Voilà.
Et on va voir comment est née la Salers. C'est l'histoire qu'on raconte aux tout petits enfants du Cantal. Quand ils grandissent, ils ont connaissance assez vite des funestes secrets de la sexualité des vaches.
Saint-Pierre, dites au bon Dieu... Bon Dieu, quel dommage! Quand ce volcan sera éteint, eh bien, toutes ces belles couleurs rouges auront disparu. Tu n'as pas tort, Saint-Pierre, lui dit le bon Dieu. Eh bien, je vais créer des vaches, et ces vaches auront cette couleur rouge, et elles seront ici, dans ces jolies montagnes. Donc, il créa ainsi la vache chalaire, et après la vache chalaire, eh bien, il créa l'Auvergnat, pour prendre soin de tout ce territoire.
Mais pourtant, sur la place centrale de Salers, il y a le buste d'un monsieur qui s'appelle tissaudier d'Escousse. Et c'est lui l'acteur de l'enrichissement de la Salère, c'est pas le bon Dieu qui a tout créé d'un coup.
Voilà, c'est lui. C'était un noble auvergnat qui a décidé de consacrer une partie de sa vie à l'amélioration de cette race, qui était une race qui existait depuis très longtemps. On n'appelait même pas sa race, mais c'était la population, c'était la vache dite auvergnate, qui existait probablement depuis le XVIe siècle. Et il a décidé de l'améliorer, de lui agrandir la taille, d'en faire une meilleure laitière. Et surtout, un animal aussi de trait, on l'utilisait beaucoup pour le travail. Et c'est devenu, à la fin du 19e, véritablement une vache bonne à tout. C'est-à-dire un animal de travail, une plutôt bonne laitière. C'est elle, je le rappelle quand même, qui est à l'origine du fromage de Salers, du Cantal, etc. Et c'était aussi une vache dont la viande était tout à fait réputée. C'était...
Alors on va commencer avec le 19e siècle, on pourrait, comme vous le faites dans toutes les vaches de France, remonter à l'Auroch. Mais au 19e siècle, on voit des acteurs comme Tissandier d'Escousse et d'autres observer de très près les vaches. Ce sont souvent des nobles ou de grands propriétaires terriens ou des monastères qui ont des fermes modèles. Ce sont des agromanes. Et ce sont des anglomanes.
Oui, parce qu'en fait, la grande révolution bovine, si je puis dire, a eu lieu à la toute fin du XVIIIe siècle et début du XIXe. Elle vient d'Angleterre, où des gens comme Blackwell et d'autres ont été les premiers véritablement à appliquer la sélection et à rendre les animaux particulièrement appréciables pour la viande, puisque c'est le moment où on a besoin de nourrir les villes qui ne cessent de grandir. Et puis donc, il y a une race particulièrement connue en Angleterre qui s'appelle la Durham. Et en France, à partir de 1830, va débuter la Duramania qui s'inscrit parfaitement dans la globalité de l'Anglomania, c'est-à-dire que tout ce qui vient d'Angleterre est bel et bon. Et donc la Durham, pendant assez peu de temps, d'ailleurs 30 à 40 ans, va être la vache de référence. Celui qui n'a pas de Durham est un mauvais paysan. Et elle va contribuer quand même pour partie à l'amélioration, voire à la création de certaines races au cours du 19e
siècle. Là, il faut qu'on pose des bornes. Ça fait 6 fois que nous employons le mot « race ». Alors, le mot « race », il apparaît au 19e siècle pour les vaches ?
Alors, il apparaît, oui, au tournant au début du... Voilà, il faut faire le distinguo entre l'espèce vache, qui est originaire, qui vient, comme vous l'avez dit, de l'Auroch, et les races. Les races, ce sont des constructions, si je puis dire, humaines, c'est-à-dire faites à partir de la sélection des aurochs au fil du temps. On a d'abord parlé de population, et puis la race, c'est quelque chose qui est très très cadré, avec un standard, avec etc. Et donc, on est véritablement dans la naissance des races, c'est vraiment à cette époque-là.
Les agromanes dont nous parlions au 19e siècle vont créer des comices agricoles. Alors on ne sait plus, parfois, quand on est citadin en France, ce qu'était un comice agricole. Il y en a encore toujours, ça s'organise par canton, et on s'y inscrit, et on concourt.
Voilà, alors les comices vont avoir une très grande importance, parce que c'est vraiment le moment, où il n'y avait évidemment pas la communication qu'on a aujourd'hui, et à partir de 1850, ça va être véritablement le moment où les gens peuvent se retrouver, les éleveurs, échanger, vendre leurs animaux, discuter sur les améliorations à apporter. Il y aura par exemple au niveau national un premier concours en 1855.
C'est l'exposition universelle.
Voilà.
Vous avez Napoléon III.
C'est ça, c'est Napoléon III et il y a un concours et il a un tel succès.
Dans l'exposition universelle, il y a un concours universel pour les vaches.
Voilà, agricole d'une manière générale et spécifiquement pour les vaches. Il a un tel succès déjà, vous voyez, que l'année suivante, en 1856, on refait un concours comme ça avec 80 races de vaches, qui est énorme, qui est venue de toute l'Europe, 1700 animaux et qui seront photographiés. C'est d'ailleurs les premières photos par Adrien Tournachon, qui n'est autre que le jeune frère du très célèbre photographe Nadar.
Et cette tradition du concours général, eh ben, se perpétue à Paris, ici un siècle plus tard, mais ce sont les mêmes dispositifs qui sont toujours en jeu.
Ça, c'est gentil de venir me voir. Hein.
C'est cette bête-là que tu as présentée?
Comme tu vois, mon vieux, on a fait ce qu'on peut. Hein.
Elle est jolie, hein?
Oh, elle est jolie, elle est jolie. Il y en a d'autres comme ça.
Oui,
elle n'est pas la seule.
Mais tu vas pas rester là toute la journée?
Non, bien sûr, mais tiens, mon vieux, déjà un quart d'heure que j'attends mon cousin. un quart d'heure, tu prends pas.
C'est un Parisien, ton cousin?
Ben, tu sais bien, celui-là qui habite là-bas,
ah, oui,
dans le nord de Paris, là, je sais pas trop par où, là.
Tu sais, les Parisiens, ils s'occupent pas beaucoup de ta vache, hein, quand tu auras du lait et puis de la viande, tu sais.
Premier prix
de section.
Alors,
deuxième section.
Race flamande mâle, deuxième section. Le premier prix, 160
nouveaux francs. C'est ça.
Voilà.
Le montant du prix de championnat était tout voisin du prix de l'animal.
Oui. Et puis de plus, j'étais invité à l'Élysée.
C'est très exact.
Une dramatique télé de Jacques Crière, un paysan à Paris. Alors, le Parisien se soucie d'avoir de la viande et du lait. Vous avez dit que le rôle de la demande est moteur pour la transformation du cheptel. Il aime bien, quand même, pouvoir identifier les races, j'emploie le mot avec votre définition, d'une façon géographique. Les races sont localo-régionales.
Ah oui.
Et c'est l'époque fin du 19e, on arrive à la fin du 19e maintenant, où la diversité est la plus grande.
C'est ça. Alors, les agronomes, les ethnozootechniciens considèrent que il y a les races et puis il y a tout le reste dont on s'intéresse, auquel on s'intéresse beaucoup moins. Mais globalement, entre les races, on a les sous-races, les populations, parce que tout ça était des termes utilisés, on arrive à peu près 80 différences, ce qui est énorme. Ce qui veut dire que on est vraiment au summum. Chaque région, chaque presque parfois chaque vallée a sa population bovine, et évidemment tout ça va changer au fil du temps parce
mais
que...
on va y venir, mais restons à cet instant d'apogée. Alors, on entendait tout à l'heure que le bon Dieu a créé l'Auvergnat après la Salers. La Salers et l'Auvergnat, ce sont deux races encore différentes.
Alors,
moment-là, fin 19e, quand on fait la carte des vaches en 1881, il y a un grand effort de cartographie.
Voilà. Non, c'est l'Auvergnat est devenu la Salers, c'est la même race. Mais j'entendais dans le reportage précédent, il y a un monsieur qui parle à un moment de la Flamande, qui était des vaches laitières du nord de la France. Il y avait au moins 6 ou 7 populations bovines différentes. Il y avait la Casselloise, il y avait la Boulonnaise, il y avait la Namponnaise. Donc chaque région avait sa vache. Alors elles se ressemblaient, mais tout ça était effectivement très lié à une région.
Dans l'Exergue, je parle de la brune de Guingamp, c'était une race, ça ?
Du tout, c'était une population. Alors c'est extrêmement intéressant, je dis deux mots sur cette brune, parce que, en fait, il y a une vache qui s'appelle la Canadienne, qui est originaire du Canada, comme son nom l'indique, et qui a été, en fait, introduite dès le XVIe siècle. Et en fait, on pensait qu'elle avait totalement disparu, et la brune de Guingamp était une population de vaches des monts d'Arrée et de la région de Guingamp, totalement dans des endroits totalement reculés, et qui en fait a perduré pendant des siècles sans que le moindre agronome ou agromane n'en soit au courant. C'est très récemment qu'on a découvert, à travers des photos et des témoignages anciens, que cette brune de Guingamp existait et avait existé jusqu'au début du XXe siècle.
Donc dans l'obscurité, un peu comme la vache corse.
La vache corse est un peu plus connue, mais là, on est, quand vous parlez d'obscurité, je pense que pour la brune de Guingamp, on est totalement dans une obscurité. C'est-à-dire que personne n'y fait allusion dans les ouvrages de l'époque.
Alors faisons la lumière, à l'usage des petits-enfants de Salers, sur la manière dont se reproduisent les vaches et sur les 1000 façons d'améliorer l'espèce. Alors, il y faut un taureau. George Milton, le chanteur immortel des artichauts, un peu après le conte Obligado, l'opérette où il a donné les artichauts, il a chanté ceci, c'était en 1934.
Tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs, tous les bœufs aimaient la vache. Mais la vache, pas la vache, elle n'en aimait aucun d'eux. Quand les bœufs, quand les bœufs, quand les bœufs, quand les bœufs, quand les bœufs d'une jolie vache, ça mourache, ça n'est pas très dangereux. Elle aimait un taureau qu'elle avait vu à Bilbao, au marché, au bestiaux. À ce taureau qu'il était beau, avec ses jolis cornes en croc. Il avait un anneau, un bel anneau dans les naseaux, un joli petit museau. Il était beau, il était gros, c'était un beau taureau costaud. Et elle rêvait la vache, nuit et jour du taureau. vache qui manquait d'expérience, dit avec imprudence qu'elle aimait un taureau. L'un des bœufs dit taureau ma chérie, faites toutes sortes de vacheries, ce n'est pas le mal qu'il vous faut. Puis il dit confidentiel, mais c'est un professionnel, il se fait payer d'ailleurs toutes les fois qu'il accorde ses faveurs. Et puis ce qui est bien pis, chaque jour de pis en pis, il va comme ça de vache en vache, mais à aucune il ne s'attache.
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
Toutes les vaches de France, un ouvrage de Philippe Dubois chez Delachaux et Niestlé, Festival international de géographie de Saint-Dié consacré au monde des animaux, avec bien sûr des rencontres sur la sexualité des animaux. Alors à partir de quand y a-t-il des professionnels chez les taureaux, comme dit Milton?
C'est après la Seconde Guerre mondiale, dans les années 60, hein, avec l'avènement de nouvelles technologies, l'insémination artificielle, puis la cryoconservation des semences. Tout ceci dans un effort, si vous voulez, d'amélioration, entre guillemets parfois d'ailleurs, des races. On va avoir des taureaux qui vont être véritables ensemenciers, notamment dans la Holstein, où vous avez des taureaux qui on peut donner en France, rien qu'en France, 350 000 descendantes en vaches. Donc vous imaginez aussi les problèmes de consanguinité que ça peut poser.
Mais la consanguinité peut être utile dans la construction de lignées.
Alors vous avez tout à fait raison, c'est d'ailleurs comme ça que sont nées les races, puisque les premières races des Anglais étaient faites essentiellement sur cette base de consanguinité. Le problème, c'est qu'à terme, on peut avoir de véritables goulots d'étranglement génétique, et on en a aujourd'hui avec la Holstein, qui a des difficultés, qui peut avoir des difficultés à vêler, etc. Donc, faut pas
la Holstein. Alors, focus sur la Holstein. Mais d'abord, elle s'appelle pas la Holstein. Moi, quand j'apprenais à tirer des vaches, ça s'appelait la Hollandaise.
Oui.
C'était une espèce qui vient des régions bataves, mais qui est implantée en France depuis fort longtemps.
Depuis la fin du 19e siècle, oui, absolument.
Le Marais breton, ou l'ancien Marais breton que vous habitez, avait des Hollandaises.
Voilà. Et le nord de la France aussi, beaucoup, oui.
Et est-ce que la Hollandaise a profité, comment dire, des difficultés provoquées dans beaucoup de troupeaux par la Grande Guerre? Parce que la concentration ou la contraction des espèces, vous la datez souvent de la Grande Guerre.
Oui, la Première Guerre mondiale a été particulièrement dure pour certaines races du nord et de l'est de la France, puisque les troupes faisaient des prélèvements très importants sur les troupeaux. On sait que, par exemple, toujours la Flamande, dont j'ai parlé tout à l'heure, est une race qui ne s'est jamais remise de la Première Guerre mondiale. Les effectifs ont tellement chuté, et elle a été ensuite, effectivement, supplantée par la Hollandaise de l'époque, et elle a failli disparaître. Donc effectivement, la Hollandaise a profité, parce que c'était une vache particulièrement laitière et qui donnait plus de lait que les autres races françaises.
Mais en 1960, où on va parvenir maintenant, elle était encore une vache destinée à l'engraissement, un peu mixte.
Voilà, c'était une vache mixte, c'est-à-dire à la fois laitière et donnant une bonne viande, comme l'est aujourd'hui encore la Normande. Mais après la Seconde Guerre mondiale, on a décidé véritablement de spécialiser les races, et cette pauvre
Hollandaise,
qui est devenue Friesen entre-temps, ouais, d'ailleurs, est devenue une race totalement dévouée à la production laitière.
Ce qu'on va entendre dans un reportage de 5 colonnes à la une de 1965, où la Friesen pinoire, parce que c'est son nom officiel des années 1960, fait modèle, notamment parce qu'elle est élevée selon des conditions de plus en plus rationalisées.
Nous sommes allés en Hollande du Nord, chez une éleveuse de pinoirs, ces vaches qui produisent couramment 4500 litres de lait par an. Madame Gronemann est seule, mais très vite nous avons compris qu'elle ne l'était pas.
Qu'est-ce que va faire ce monsieur-là?
Alors c'est monsieur le contrôleur, et il va peser le lait maintenant de chaque vache.
Et pourquoi fait-on ça?
Pour savoir la descendance d'une vache, parce que quand on veut vendre un veau, une génisse d'une telle vache, alors l'acheteur veut savoir ce qu'elle a donné, la production, oui, et qui est le père, qui est la mère, on a un tas de papiers sur cela.
Vous avez une fiche par bête?
Oui,
une fiche par bête. Et c'est monsieur qui l'a remplie en quelque sorte?
Oui, c'est cela.
Et à Paris, il y a un monsieur qui s'appelle Quittet, qui est un ingénieur général de l'agriculture, qui doit recenser toutes les fiches des espèces, et notamment de la frisonne pinoire, et qui recommande, c'est la modernisation des années 60, dans ce domaine-là comme dans d'autres, et ben, sélectionnons et ne gardons que les meilleures laitières, les meilleures allaitantes, et basta.
Pire que ça, il dit gardons que quelques races. On n'a pas besoin de ces 25, 30, 40 races de vaches qui sont peu productives. Gardons trois races à viande, la limousine, la charolaise et la blonde d'Aquitaine, et trois laitières, la montbéliarde, la frisonne et la normande. Donc il commence dans ces années 60 à encourager les agriculteurs à ne pas garder leurs vaches, à tel point que les races à petits effectifs, elles, sont interdites de monte naturelle. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de mettre un taureau de la même race que ces vaches.
Alors, pendant que les races qui deviennent à petits effectifs sont écartées des concours, la frisonne pinoire ne cesse de s'améliorer, je mets comme vous, Philippe Dubois, des guillemets, et devient, à la suite d'un processus d'holsteinisation, la prime Holstein.
Oui.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Alors, en fait, cette race, la pinoire, qui était une race mixte, va recevoir, en fait, des apports de sa cousine américaine, qui est cette même hollandaise qui était partie outre-Atlantique, qui a été particulièrement sélectionnée pour être une espèce d'usine à lait, un pis sur pâte, et c'est ces Frisian Holstein qui vont revenir à la fin des années 60 et 70 pour améliorer le cheptel européen. Et donc on va avoir des vaches très grandes, très élancées, très maigres, sans cornes, elles sont écornées, et dont le seul critère de sélection ne sera plus la forme des cornes ou la couleur de la robe, mais essentiellement la forme du pis, c'est-à-dire que le standard c'est devenu la forme de la mamelle.
Alors, je lis dans Ouest France, à l'occasion d'une grande manifestation qui s'appelle le SPAS à Rennes. Il y a encore de grandes manifestations d'agriculture comparable.
Oui, absolument. À Cournon, par exemple, dans 15 jours.
Ça, c'est dans votre Auvergne.
Voilà, oui. Mon Auvergne.
Je lis ceci sous la plume d'un pionnier de l'agroalimentaire. Jusque récemment, les baby-boomers, devenus vieux maintenant, donnaient le tempo des modes alimentaires. Alors, le bio, vous voyez, enfin. Maintenant, explique ce monsieur, la génération smartphone pourrait être séduite par une conception plus scientifique encore de l'aliment, du lait et du beurre. Nous sommes toujours en Hollande.
Je suis en train de lancer le robot qui va nettoyer l'allée des vaches.
En 5 ans, il est passé de 85 à 300 vaches parquées toute l'année dans cette étable qui ressemble à une serre.
On a un ordinateur qui gère la température de l'étable et qui contrôle tout. Le soleil, le vent qui rentre, s'il pleut l'humidité, la température.
Résultat, des vaches moins souvent malades et donc plus productives. Elles sont traites jusqu'à 4 fois par jour grâce à 5 robots qui tournent 24 heures sur 24.
Quand une vache entre dans le robot, elle reçoit du concentré. Une sorte de bonbon. Elle aime ça, c'est pour ça qu'elle revient souvent. La porte se ferme, le robot nettoie les trayons, qui sont ensuite automatiquement branchés, et la traite commence.
L'alimentation aussi est automatisée. Des bennes, sans tracteur, ravitaillent le bétail toutes les heures, jour et nuit. Elles circulent seules dans la ferme pour faire le plein de fourrage.
Et puis, à Jute-Ouest-France, le sol, le plancher est drainé, égalisé, et les vaches sont bien dans leurs sabots.
Oui, mais pour un temps court. Aujourd'hui, par exemple...
Ça vit combien de temps, prime Holstein?
Eh bien, une prime Holstein vit en moyenne 5 ans et fait un petit peu moins de 2 lactations dans toute sa carrière, c'est-à-dire 2 veaux. Si vous prenez une bretonne pinoire ou si vous prenez une béarnaise, qui sont des vaches rustiques, elles peuvent vivre 15, 16, 17 ans et avoir fait 15, 16, 10 ou une quinzaine de veaux, si vous voulez.
L'obsolescence de la prime Holstein.
L'obsolescence, absolument. Et comme ce sont des vaches, ce sont des animaux plutôt fragiles, ça coûte quand même beaucoup plus cher, au final, en frais de vétérinaire, qu'une bretonne pinoire qui
La bretonne pinoire, il faut qu'on en parle. Dans l'Ouest-France encore, portrait, il y a peu de jours, de Maître Lemaine, c'est le vice-bâtonnier du barreau de Quimper, et en même temps qu'il est avocat, il élève des vaches dans les monts d'Arrée, des jerseyaises.
Oui, qui sont, comme leur nom l'indique, originaires de l'île de Jersey, qui sont les meilleures beurrières de toutes les races.
Et sa passion est née très vite, puisque pour ses 16 ans, il s'est fait offrir une bretonne pinoire. Mais comment est-ce qu'on trouvait une bretonne pinoire quand il avait 16 ans? Il n'y en avait presque plus.
Ah non, dans les années 70, à la fin des années 70, il restait plus que 100 ou 150 vaches bretonne pinoire. Alors qu'au début du XXe siècle, il y avait 1 500 000 vaches bretonne pinoire en France. Partout en France, il y avait au moins une bretonne pinoire, parce qu'on considérait des petites vaches qui consommaient peu d'aliments et qui donnaient beaucoup de lait. Donc tout le monde avait sa petite bretonne pinoire. Mais effectivement, à cette époque, elle était tout à fait au bord de l'extinction et de la disparition.
Alors comment on fait pour ressusciter la bretonne pinoire?
Eh bien, il y a eu un gros travail de fait en France à partir des années 70, notamment par Laurent Avon, qui était un ingénieur de l'Institut de l'élevage, qui a fait véritablement œuvre de précurseur en recensant toutes ces races et en essayant de les conserver. Ce qu'il a réussi à faire, puisque, à une ou deux exceptions près, toutes ces races ont survécu, mais ont même repris quelques couleurs, ce qui est plutôt une bonne chose.
Mais vous défendez aussi la flamande, menacée de disparition, et essentielle pour d'autres fromages que ceux que vous citiez tout à l'heure.
Fromage de Berg, notamment.
Maroilles.
Maroilles, évidemment.
Mais vous dites, elle doit se maintenir à tout prix. Pourquoi la flamande doit-elle se maintenir à tout prix?
Parce que ces races font partie de notre patrimoine naturel, évidemment, mais aussi de notre patrimoine culturel. Moi, je considère qu'une race de vache, j'espère ne pas choquer nos auditeurs, mais une race de vache, pour moi, c'est aussi important qu'une cathédrale. Parce que c'est véritablement la coévolution de l'homme et de l'animal dans ce contexte culturel et naturel qu'il a patiemment bâti. Et perdre, il faut jamais oublier que perdre une race de vache, c'est perdre un petit morceau de génétique de l'espèce vache. À chaque fois qu'une race diminue, c'est un fragment de l'espèce vache qui disparaît.
Mais on peut aussi parler de la demande. Vous avez expliqué comment au XIXe siècle, c'est la demande des villes qui a transformé les vaches. Je continue en Bretagne, centre-Bretagne, monsieur Troadec, maire de Carhaix, saisi par la Chine, construit une vaste usine avec le drapeau chinois et le drapeau breton, et qui va fournir des barquettes de lait infantile destiné aux enfants de la classe moyenne chinoise qui s'inquiètent des mauvaises conditions sanitaires dans le pays. Ça va induire, du côté des producteurs de la région, une transformation des comportements. Et on va donc choisir des vaches en conséquence.
Oui, bien qu'à mon avis, ça n'aura qu'un temps, puisque...
C'est des contrats de longue durée, c'est au moins 5 ans, 6 ans, comme la durée de la prime Holstein.
Écoutez, je vais vous donner une information, c'est que vous parliez tout à l'heure des fermes de 500 ou de 1000 vaches. Il se prépare actuellement une ferme en Chine, où il y aura... tenez-vous bien, 125 000 vaches. Donc 125 000 vaches, je pense qu'un jour, les Chinois n'auront plus besoin des vaches de M. Troadec, n'est pas plus que des vaches bretonnes.
Évidemment, tout ce que vous dites, là, ça plaît à l'auditeur de France Inter. On tiendrait le même discours sur les pommes.
Ah oui, c'est exactement la même chose, sur les poulets.
Oui. Toutes les vaches de France, donc c'est votre livre chez Delachaux et Niestlé. Puis Delachaux et Niestlé publient aussi un livre qui s'appelle « Les vaches ont une histoire ».
Oui, de Bernard Denis.
Et qui est fondé, puisqu'on a commencé cette émission sur le milieu du 19e siècle, sur une recension des espèces qui existaient à ce moment-là.
Voilà.
Le moment du zénith de la vache. Merci à vous. L'émission a été préparée par Franck Olivard. Martin Pennel nous a recommandé la chanson de Milton, Audrey Ripouille et Valérie Astaraï pour la réalisation et Valentin Azan-Wielinski pour la technique.